J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous propose de retrouver le passage que nous avons évoqué déjà semaine dernière dans la première lettre de Pierre. Et je vous propose de relire pour nous en rappeler ou pour le découvrir si vous n'étiez pas là. 1 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 3. Et j'ai pris une autre version que celle de la semaine dernière. J'ai pris la version de la Bible annotée pour avoir une autre façon de traduire le texte original. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous approchant de lui, pierre vivante, réprouvée et livrée par les hommes, mais devant Dieu choisie et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, soyez édifiés en maison spirituelle, pour former une sacrificature sainte, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. À vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent, n'obéissant pas à la parole, à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Semaine dernière, nous avons considéré trois premiers points. Premièrement, le fait que Jésus est à la fois une pierre de construction pour ceux qui croient en lui, mais aussi une pierre d'achoppement pour ceux qui le rejettent. Et deuxièmement, lié à cela, nous nous sommes réjouis, j'espère en tout cas, du fait que parce que nous croyons en Christ, notre Sauveur, nous ne serons jamais confus. Nous pouvons paraître devant Dieu sans mourir, nous pourrons comparaître devant Dieu sans être condamnés. Quelle grâce extraordinaire dont je ne me lasse pas de m'émerveiller. Et troisièmement, nous avons réfléchi à cette notion surprenante de pierre vivante. Christ tout d'abord, il est vivant et vivifiant. Puis nous-mêmes, par la nature nouvelle et spirituelle qu'il nous a donnée, et par la vie qu'il nous transmet jour après jour. Nous voulons continuer ce matin en réfléchissant à quelques-uns des autres qualificatifs que Pierre utilise pour détailler à la fois ce que nous sommes devenus et aussi ce que nous devons faire, selon en particulier les versets 5 et 9 et 10 notamment. Alors qu'est-ce qu'il dit Pierre ? S'édifier en maison spirituelle, ok ? Former une sacrificature royale, ouais ? Offrir des sacrifices spirituels, vous êtes une sacrificature sainte. Ok, mais j'ai rien compris. Pour dire les choses franchement, c'est un peu du charabia ce vocabulaire. Hein. Je ne sais pas si vous pensez ça quand vous lisez ce genre de passage. Peut-être qu'en son temps, tout le monde comprenait, mais aujourd'hui, je ne trouve pas cela très parlant. J'ai plutôt du mal à comprendre ce que veut dire Pierre par ces mots et ce que cela implique. Alors, si vous voulez bien m'expliquer. Voilà, c'est moi qui vais vous expliquer, ou essayer de vous expliquer. Qui sommes-nous en tant que chrétiens ? Que sommes-nous devenus ? Selon les diverses traductions du verset 9, Pierre mentionne une lignée choisie, une race élue, un peuple que Dieu s'est acquis. C'est encore une dimension collective, je l'ai déjà souligné dimanche dernier, et tant pis pour notre individualisme occidentale du XXIe siècle, qu'il le veuille ou non, qu'il le comprenne ou non, l'être humain a de fait été créé comme un être social, ayant besoin des autres, les autres ayant besoin de lui. Et c'est vrai aussi dans la dimension spirituelle, d'autant plus vrai dans la dimension spirituelle. Ainsi l'a voulu le Créateur. Et donc en croyant en Jésus-Christ et en plaçant notre foi en lui comme sauveur personnel, en lui remettant la direction de nos vies pour qu'il en soit le Seigneur, Dieu nous a fait spirituellement naître, faisant de nous de nouveaux êtres, ses enfants, sa famille, son peuple. Oui, le peuple de Dieu, j'en fais désormais partie et nous le sommes. Petite succursale ici à Thonon. Et cela, notre passage le formule de façon totalement explicite pour le coup. Le verset 10 notamment, nous le comprenons bien. Et je le relis dans une autre traduction encore, celle de la Bible du Semeur, et en nous l'appropriant. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous qui autrefois n'étions pas au bénéfice de la grâce de Dieu, nous sommes à présent l'objet de sa grâce. La grâce individuelle nous inclut dans une dimension communautaire. Est-ce que cette notion d'appartenance vous est précieuse ? Est-ce que c'est un privilège pour vous ? Ou une corvée ? Un privilège, bien sûr. Nous ne serons plus jamais seuls. Nous appartenons à un groupe, à une famille, à un peuple. C'est mieux que n'importe quel réseau social virtuel. Même si ce groupe, peuple de Dieu, nous donne parfois plus de défis, peut-être. Saisissons ce privilège et ne croyons pas qu'aujourd'hui, c'est parce que nous sommes plus différents les uns des autres que nous ressentons peut-être moins cette notion d'appartenance. Pierre s'adresse lui aussi à des gens très disparates, si nous relisons bien son épître. Si nous, nous ressentons peut-être moins la notion d'appartenance au peuple de Dieu, ce n'est pas que nous soyons plus différents les uns des autres, peut-être plus indifférents des uns et des autres. Une petite syllabe d'écart qui change beaucoup de choses. Indifférent au lieu de différent. Nous, nous croyons à tort plus autonomes, plus indépendants, et c'est bien dommage. Que nous dit le texte encore ? En naissant de nouveau, en devenant peuple de Dieu, nous sommes aussi devenus une sacrificature royale. C'est encore dans le verset 9. Et le verset 5 disait déjà une sacrificature sainte. C'est une traduction assez littérale du grec que l'on peut rapprocher de certains versets de l'Apocalypse, par exemple, qui disent que nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu. Et d'autres traductions de notre passage disent ou parlent de sacerdoce saint, sacerdoce royal. D'autres disent encore que nous sommes des rois prêtres. Et Pierre reprend en cela des paroles solennelles de l'Éternel déjà transmises par Moïse il y a bien longtemps dans le livre de l'Exode. Dieu avait dit « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. » Bon, ça ne rend pas pour autant la terminologie plus explicite pour nous, mais au moins on peut se dire que c'est quelque chose qui doit être important pour Dieu. Il a tenu à le transmettre et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a poussé plusieurs auteurs bibliques à le spécifier pour l'instruction de son peuple au fil des siècles. Mais c'est nous son peuple, au fait. Ah, c'est peut-être pour notre instruction à nous aussi, alors aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que nous sommes appelés à une liturgie particulière, à faire telle ou telle pratique religieuse ? C'est peut-être ce que ces mots de sacrificateur, de sacerdoce ou de prêtre éveillent de prime abord dans notre esprit. Sacrificateur, nous pensons bien évidemment à tous les rituels de l'Ancien Testament, avec toutes ces prescriptions assez lourdes, il faut bien le dire, sur les sacrifices pour ceci et pour cela, pour les offrandes, les rituels en tout genre et tout et tout. J'avoue que personnellement, je ne trouve pas ça très attrayant. Prêtre, nous pensons certainement aussi aux pratiques et aux concepts que nous connaissons, où nous avons entendu parler de l'Église catholique en particulier. De toute évidence, un certain nombre de gens l'ont compris et le comprennent encore comme cela. Pourtant, moi je trouve que ça ne colle pas trop avec l'idée de renouveau et de liberté spirituelle que Christ nous apporte. Ah, et c'est peut-être trompé de vocabulaire, le Pierre, non ? Qui veut être prêtre ou sacrificateur ici ? Ah, quelques-uns quand même. Qui, en tant que chrétien, pense avoir un sacerdoce ? Ce n'est plus très vendeur de nos jours, ce genre de mots. Et rien que moi, je dirais sûrement, oh, moi je suis pas prêtre, hein, je suis pasteur. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, la Bible ne pose pas la question de savoir si nous voulons être prêtres ou non. Elle affirme que nous le sommes. Tous les chrétiens sont prêtres. Je le suis, vous l'êtes, chacun et chacune d'entre vous. Nous avons ainsi un sacerdoce, des fonctions particulières. Ah ? Bon, d'accord. Le point de départ à se rappeler ou à comprendre, je pense, est certainement le fait que Christ, et c'est une autre affirmation biblique sans équivoque, Christ est dans toute la plénitude des mots, sacrificateur et roi. On l'a chanté dans un des chants tout à l'heure, roi, celui qui règne, le Seigneur, on le chante souvent, nous prions aussi, et ça je pense que nous le comprenons assez facilement et nous le croyons. Pilate avait même mis un écriteau moqueur sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Jésus est le roi du royaume des cieux, qu'il est venu instaurer et ouvrir pour nous. Un royaume invisible, c'était aussi, rappelé aussi cette dimension de l'invisible, mais pourtant bien réel, un royaume spirituel. Jésus règne dans les cieux, mais il est avant tout, je l'espère et nous le voulons, il règne sur nos vies. Oui, il règne sur l'Église, dont il est le chef, le roi. Et quand nous sommes devenus le peuple de Dieu, nous n'avons pas seulement obtenu une carte d'adhérent à un club particulier dans lequel nous sommes entrés tels que nous étions. Nous avons radicalement changé de nature, nous dit les Écritures. Nous sommes nés spirituellement, nous sommes devenus un avec le Christ, de la même nature que lui. Participant de la nature divine, dira même encore l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre. C'est une réalité ou non ? C'est juste des mots ou une réalité que nous expérimentons ? Je parle martien ou confirmer que c'est le cas ? Je me fais volontiers provocateur, évidemment, mais c'est assez important de saisir tout cela. En devenant ces rachetés, les rachetés par Christ, Jésus nous a communiqué tout ce qu'il est. Jésus nous a communiqué tout ce qu'il est. Promesse biblique, réalité spirituelle. Il est roi et sacrificateur, alors nous sommes aussi roi et sacrificateur, selon notre nouvelle nature spirituelle. Christ est roi, il règne, et nous sommes effectivement appelés à régner avec lui et par lui. Oui, régner avec Christ. Qui le fait ? Qui le veut ? Nous sommes nous-mêmes des rois ou de rang royal, comme nous dit notre passage. C'est pas mal ça comme privilège, non ? On se dit qu'il y a sûrement des avantages immédiats à en tirer, en tout cas. Par exemple, au lieu de faire la queue au cinéma, on pourrait dire « Pardon, excusez-moi, j'ai une carte VIP, laissez-moi passer, je suis de la famille royale. » Bon, pas de bol, en France, c'est une démocratie et on coupe la tête des rois. Donc, exactement. Alors, on va faire la queue comme tout le monde. Je plaisante, mais vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'avoir chacun ici-bas notre petit royaume personnel où nous régnerions en maître, ou d'avoir des passe-droits ici ou là. En tant qu'enfant de Dieu, désormais, enfant du souverain éternel, oui, nous bénéficions de la royauté de Dieu. Nous sommes désormais de lignée royale, sujet de reconnaissance, mais ni d'orgueil, ni d'imposition d'une quelconque suprématie, et encore moins d'autoritarisme. Nous régnons avec Christ pour représenter dignement la royauté de Dieu. Il règne sur toute chose. Mais rappelons-nous que Jésus le roi est venu pour servir. Et il est venu nous montrer l'exemple à suivre. Ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, celui des monarques terrestres qu'il pouvait y avoir ou qu'il a pu y avoir depuis lors. Jésus, roi serviteur. Si nous sommes déçus en nous rappelant cela, c'est peut-être que nous devons probablement revoir notre conception de Christ le roi et de son royaume. Nous devons, comme lui, promouvoir un royaume invisible, mais bien réel, avec des principes, des valeurs, des objectifs bien différents des royaumes humains. Amour, partage, pardon, service, réconciliation, soumission mutuelle, joie du salut. Nous le comprenons assez bien, je pense, même si ce n'est pas nécessairement facile à vivre et à mettre en œuvre au quotidien. Qui veut régner avec Christ ? Personne. Bon. Jésus est aussi sacrificateur. Il est même le souverain sacrificateur, le grand prêtre parfait, comme nous détaillent d'autres passages, comme l'Épître aux Hébreux notamment. Et Jésus a de plus été lui-même le sacrifice présenté à Dieu et agréé par Dieu pour le péché du monde. Dans l'Ancienne Alliance, une classe particulière de gens, les Lévites, avaient un rôle de médiateur entre Dieu et les hommes, un rôle exclusif d'intermédiaire. Ils étaient les seuls à pouvoir venir devant Dieu et à présenter des sacrifices. Mais encore, en leur sein, il y avait même une hiérarchie. Hein. Les Lévites lambda ne pouvaient accéder qu'aux parties périphériques du temple. D'autres en particulier avaient accès au lieu saint. Et un seul, le souverain sacrificateur, avait accès au lieu très saint. Et une fois par an seulement. Il servait d'intermédiaire entre Dieu et le reste du peuple. Et c'est d'ailleurs le peuple, conscient de son péché, et par peur d'être anéanti par Dieu, par sa grandeur, par sa sainteté, c'est ce peuple qui avait voulu des intermédiaires, notamment en demandant à Moïse de leur parler, plutôt que Dieu de leur parler directement. Je n'ai pas noté le verset, mais vous pourrez voir ça en Exode, chapitre 20, verset 19. Parce que Dieu venait de leur dire, « Quant à vous, vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte, c'est ouvert à tous. » Et eux, le chapitre d'après, ils disent à Moïse, « Ah, c'est toi qui nous parles, hein, parce que nous, Dieu, on ne veut pas qu'il nous parle directement, on a trop peur. » Quel dommage, cette mauvaise peur. Mais désormais, dans la nouvelle alliance, tous les croyants en Jésus-Christ, tous, hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, riches ou pauvres, tous, pourvu qu'ils aient foi, je pense qu'on a compris ce que ça voulait dire maintenant. Pourvu qu'ils aient foi en Christ le Sauveur, en Christ leur Seigneur, tous ont un accès direct à Dieu. On l'a souligné la semaine dernière et on le ressouligne aujourd'hui. Grâce à la médiation accomplie par Jésus-Christ, grâce au pardon par son sacrifice, plus besoin d'avoir peur de Dieu. Plus besoin d'avoir peur de mourir si on s'approche trop près de lui. Et donc, plus besoin d'intermédiaires. Nous sommes désormais celles et ceux qui sont déclarés aptes, agréés à venir devant Dieu, comme les prêtres de l'Ancien Testament, qui en avaient l'exclusivité. La fonction n'a pas été abolie, mais elle a été élargie. Élargie à tous. Transposons-nous, dans ce système religieux de l'époque, du temps de Pierre, de Jésus, un système vieux de 1400 ans environ, pour saisir la portée révolutionnaire de ce changement, apporté par Jésus et souligné par Pierre. Oui, c'était une vraie révolution. Tous les gens pouvaient désormais venir devant Dieu sans passer par des intermédiaires. Tous avaient les mêmes privilèges que les prêtres d'alors. Et nous aussi, nous sommes prêtres, parce que nous pouvons venir devant Dieu. Dans l'Église, c'est malheureusement dès le IIe siècle après Jésus-Christ que de nouveau un clergé avec des privilèges exclusifs a commencé à réapparaître et à s'imposer. Quel dommage ce kidnapping! C'était vraiment un retour en arrière. Et Luther, le réformateur au XVIe siècle, s'est aussi élevé contre le système religieux de son époque, vieux de 1400 ans aussi d'ailleurs, en redécouvrant notamment notre passage de l'Épître de Pierre et la vocation du peuple de Dieu telle qu'exprimée par Dieu lui-même dans l'Exode. Révolution pour laquelle Luther a alors utilisé la formule qu'on connaît peut-être de sacerdoce universel du croyant, pour rappeler que tous les chrétiens ont cette fonction de prêtre et que cela n'est pas réservé à quelques-uns qui serviraient d'intermédiaires privilégiés entre Dieu et les hommes. Quelques-uns qui garderaient la vérité captive et les autres dans un certain obscurantisme pour surtout pas partager Dieu avec tout le monde et s'arroger des privilèges particuliers. Quel dommage! Un accès libre à Dieu. Voilà ce que nous avons. Voilà pourquoi nous sommes prêtres. On ne saisit peut-être pas pleinement toute la portée de ce qui nous est désormais possible. C'est sans rendez-vous, sans rituel, sans intermédiaire, sans interruption, sans condition, sinon celle du pardon reçu en Jésus-Christ. Par notre union avec Christ, le grand prêtre, nous sommes devenus des prêtres. Pouvons-nous garder cet extraordinaire privilège pour nous-mêmes? Évidemment non. Et je crois que nos contemporains ont aussi et encore besoin de révolution dans leur compréhension de Dieu et dans leur compréhension de comment accéder à Dieu. Et on va arriver alors du coup à la deuxième partie. Roi prêtre, ok, ouais, mais pourquoi faire? Nous l'avons un peu évoqué avec déjà cette notion de règne particulier et d'accès privilégié à Dieu, auquel nous sommes tous appelés. Appelés à régner et appelés à servir. On retrouve là ces notions de roi et ces notions de prêtre. Car nous ne jouissons pas pour nous-mêmes de nos privilèges. Les chrétiens s'approchent de Dieu non pour s'abîmer dans une contemplation mystique solitaire. On a le droit de venir devant Dieu, de le louer, même tout seul dans sa chambre. C'est un privilège aussi, mais ce n'est pas que pour ça. Nous pouvons savourer les délices de notre salut personnel, mais c'est aussi pour servir Dieu dans un cadre qu'est l'Église, mais qui déborde aussi de l'Église. Nous sommes sauvés afin que, ou afin d'eux, ou pour, selon les traductions. Ces petits mots de transition que l'on trouve au verset 5 et 9 encore. Et première chose que nous dit Pierre, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et deuxième chose, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Une chose vis-à-vis de Dieu, quelque chose que l'on comprend comme un culte à Dieu. Une chose vis-à-vis des autres, qui ressemble à du témoignage, à du partage. Offrir des sacrifices spirituels. Pas encore explicite, évidemment, cette expression. Les sacrificateurs de l'ancienne alliance offraient des animaux en sacrifice. C'est ce qu'ils apportaient à Dieu pour lui rendre un culte. Ils apportaient aussi du parfum ou des offrandes. Grâce à Christ, il n'y a plus besoin de sacrifices sanglants. Mais en tant que prêtre, nous ne sommes pas au chômage pour autant. Non. Mais ce que nous apportons à Dieu a changé. La nature des sacrifices a changé. Un chant que nous entonnions par le passé, qui est dans les gemmes, disait « Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Un sacrifice de reconnaissance. Un sacrifice de joie. » La notion de sacrifice, elle est un peu trompeuse, parce que de nos jours, on se dit « c'est quelque chose dont je me prive, je fais un sacrifice, je me prive de quelque chose. Alors qu'avec Dieu, je pense qu'il y a une notion toute différente de ce mot. Hein. Il faut qu'on mette de côté un peu nos a priori, nos compréhensions d'aujourd'hui. En tout cas, apporter tout ce genre de sacrifice, c'est bien conforme à certains versets qui disent ce genre de choses, notamment, j'en ai trouvé un dans l'Épître aux Hébreux. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Célébrer le nom de Dieu, je ne sais pas si on se prive de quelque chose en le faisant, mais la Bible nous dit que c'est un sacrifice de louange. Également, en lien avec les paroles que Jésus disait à la femme samaritaine, par exemple, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Quand nous apportons à Dieu quelque chose animé par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habite en nous, ne l'oublions pas, alors nous apportons quelque chose de spirituel. Saint-Esprit, adjectif, spirituel. L'Esprit de Dieu habite en nous, et quand nous louons Dieu, animés par l'Esprit, nous chantons des cantiques spirituels. Quand nous prions, en communion par l'Esprit, nous faisons des prières spirituelles. Quand nous édifions un frère ou une sœur, motivés par l'Esprit, quand nous pardonnons, quand nous supportons, quand nous exhortons, etc., etc. Et je vous renvoie à la liste qu'on a repartagée il y a 15 jours et que je n'ai toujours pas imprimé pour mettre sur le mur, mais que je vais faire un jour. Quand nous faisons tout cela, nous faisons des choses spirituelles, nous apportons des sacrifices spirituels à Dieu. Car la différence du sacerdoce des sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, qui était lié au Temple, à Jérusalem, est donc limitée géographiquement, et même limitée dans le temps, car ils avaient un tour de rôle pour être de service. Notre sacerdoce à nous est permanent, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a même pas besoin de venir à l'église. Enfin, s'il y a besoin de venir à l'église, mais ce n'est pas le lieu exclusif. Si vous voulez adorer Dieu dans le temple de Dieu, alors faites-le, parce que le temple de Dieu, c'est vous. C'est nous. Notre sacerdoce est permanent. Plus grande responsabilité ou plus grand privilège? Probablement un peu des deux. Et donc notre sacerdoce, les sacrifices spirituels que nous apportons vont bien au-delà du culte du dimanche matin ou des activités d'église. Mais au défi pour nous, nos sacrifices spirituels couvrent désormais tout notre quotidien. L'apôtre Paul a écrit beaucoup de versets que nous connaissons sans doute, qui montrent bien cette nouvelle dimension. J'en ai juste pris trois, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un qui a été cité dans une prière tout à l'heure. « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Ça, c'est le plus facile. Hein. « Soit que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ouais, trop cool celui-là aussi. « Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les humains. » Ouais, celui-là aussi, haut la main, on le remporte. Un challenge pour nous peut-être ? Non, fastoche. Notre vie comme un culte à Dieu. Notre vie comme un sacrifice spirituel à Dieu. Nous ne sommes pas une sacrificature du dimanche. Nous sommes prêtres de l'Éternel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fardeau ou privilège ? Par l'accès permanent que nous avons à Dieu, mais aussi par le fait que nous sommes ses ambassadeurs permanents, encore un beau privilège, n'est-ce pas ? Libérés de tout rituel, de tout formalisme inapproprié, notre vie est un service pour Dieu, un culte pour Dieu. Dans l'Église, Il n'y a ainsi pas de fonction quelconque dont cette sacrificature serait exclue. Donc il y a encore de la place pour le ménage, pour un beau sacerdoce là-dedans, sur le planning. Et c'est pas moins enviable, pardon, que la présidence ou que le message. Tout au contraire. Tout compte et tout a de l'importance. Tout est pour Dieu. Et plus largement, bon, au-delà de l'Église, ce culte en esprit ne saurait plus être séparé de nos vies quotidiennes, même ordinaires. La moindre des choses que nous faisons devient une partie vivante et réelle de notre service de Dieu. La moindre des choses que nous faisons devient une partie vivante et réelle de notre service de Dieu. Ouais, Dieu commence à être envahissant quand même, hein. La moindre des choses que nous la faisons pour lui, pour lui rendre gloire, comme un sacrifice spirituel agréable à Dieu en soi. Waouh ! Nous ne nous brosserons plus les dents de la même façon désormais. Bon, c'est un exemple évidemment anecdotique. Encore que. Nous ne ferons plus notre travail de la même façon désormais. Ça, c'est sûrement un exemple qui nous vient facilement à l'esprit. Nous ne gérerons plus notre argent de la même façon désormais. Là aussi, certainement, nous y pensons assez facilement. Nous ne dirons plus bonjour à notre conjoint ou à notre voisin de la même façon désormais. Et là, il y a peut-être un challenge certains jours, quand on a mal dormi, quand il est un peu tôt, quand il y a le stress de la rentrée ou je sais pas quoi. Nous n'éduquerons plus nos enfants de la même façon désormais. Chose de long terme et école de patience. Nous n'organiserons plus nos agendas de la même façon désormais. Nous ne ferons plus nos courses de la même façon désormais. Nous ne programmerons plus nos loisirs de la même façon désormais. Etc, etc, etc. Vous trouverez bien l'exemple qui vous parle. Enfin, je sais que vous le faites déjà. Moi, j'ai encore quelques progrès à faire. Seigneur, apprends-moi à régner et à servir. Saint-Esprit, équipe-moi. Et peut-être que grâce à cette nouvelle façon d'être et de faire, alors nous annoncerons effectivement les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Certainement ainsi, nous proclamerons les hauts faits de Dieu qui changent les vies, qui changent nos vies, pas seulement en surface, mais bel et bien en profondeur, bien même avant d'ouvrir la bouche, par notre quotidien et notre façon de vivre. Et ça facilitera sûrement les possibilités de l'annoncer de vive voix ensuite. Car oui, nous voulons aussi que d'autres fassent l'expérience de ce passage des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu. Non ? Oui. Amen. Alors allons-y. On a tout dimanche pour commencer à pratiquer ou continuer, et toute la semaine, toute l'année. Et je vous invite à prier. Pour avoir envie que le Seigneur nous utilise, pour avoir envie que le Saint-Esprit continue à nous transformer. Seigneur, parfois on vit le fait d'être effectivement à ton service 24 heures sur 24 comme un fardeau et comme quelque chose de difficile à porter. Parce qu'on pense que t'offrir des sacrifices, c'est se priver de quelque chose. Aide-nous à comprendre que non, t'offrir nos vies en sacrifice spirituel, c'est au contraire tout gagner. Gagner en paix, gagner en joie. Gagner en patience de ta part, gagner en pardon. Seigneur, j'ai besoin effectivement que tu continues à me changer, à réaliser combien j'ai besoin de toi. Et c'est vrai qu'au fond de mon cœur, j'ai envie que tu prennes plus de place, mais je me fais tellement vite rattraper par mon quotidien, et par l'énervement, et par les frustrations, et ceci et cela. Merci de ta patience. Merci de ton aide. Merci de ton action en nous. Oui, Seigneur, merci parce que tu as déjà fait de nous des rois, des sacrificateurs. Aide-nous à bien comprendre ce que cela veut dire. Aide-nous à le vivre, à le mettre en œuvre pour ta gloire et aussi pour le service des autres, dans l'Église premièrement, mais au-delà des murs de l'Église aussi, pour nos prochains. Saint-Esprit, équipe-moi, change-moi, agis en moi et par moi aussi, pour que toute la gloire te revienne à toi, notre Père. Et je te prie en Jésus-Christ, qui rend tout cela possible. Amen.